D'où peut venir la justice? Elle ne peut venir que de Dieu. Et donc, Dieu nous donne la raison pour pouvoir examiner ce qu'il révèle sur la justice. Mais nous ne pouvons pas fonder le droit sur notre propre appréciation, parce que, autant on ne peut pas juger soi-même, autant la collectivité humaine ne peut pas fonder le droit en elle-même. Elle est obligée de requérir une instance transcendante. Or, nos États démocratiques fondent le droit en eux-mêmes, ces sociétés. C'est-à-dire, ils décident arbitrairement que s'il y a une majorité qui décide, ça sera juste. Ben voilà une chose totalement inique. Alors, il serait juste de reconnaître qu'il y a un fondement transcendant au droit, même si on ne peut pas y atteindre, même si ça nous reste inconnu, parce que ça sauvegarde quelque chose, une retenue dans nos jugements même collectifs, et en particulier sur le droit de vie ou de mort sur les membres de la société. Comment la société s'arroge-t-elle le droit de juger de la vie et de la mort de ses propres citoyens? Voilà une chose totalement inique que l'Église condamne parfaitement. On le dit peut-être pas assez. C'est ainsi que si on vote qu'on peut tuer les petits-enfants, on le fait. Et on le fait massivement. Il y a des millions de morts. En Europe, depuis la dernière guerre, où il s'est passé des abominations, il y a environ 35 millions de morts d'enfants qui ont été tués dans le ventre de leur mère. Et c'est une société porteuse de mort. C'est ce que Jean-Paul II a appelé la culture de mort. Et ça pèse épouvantablement sur l'esprit collectif. Donc, après, suicide, drogue, violence, etc., divorce, enfin, tout se défait, tous les liens sociaux se défont. Est-ce qu'on peut faire confiance à la parole d'autrui? Eh bien, aujourd'hui, ça devient quelque chose de miraculeux. Quelqu'un qui fait confiance à votre parole, et vous faites confiance à sa parole. Dans les affaires, c'est fini. On ne croit même plus aux signatures. On ne croit à rien. Donc, la société s'effondre. Pourquoi? Parce que le fondement de la justice n'est pas établi. Et donc, il y a une colère latente contre sa propre injustice. Collectivement, nos sociétés sont en colère. Mais une colère épouvantable. Comme on peut être en colère contre soi-même quand on s'arroge le droit injuste de se juger soi-même. Ouais. Il faut tendre vers le bien, ça suffit. Vous recherchez le bien, vous faites tout votre possible pour le bien, le vrai, et ça suffit. Ça ira beaucoup mieux, vous savez. Quand vous fréquentez des gens qui cherchent le bien, vous commencez à respirer. Parce que même s'ils font des erreurs, ils sont prêts à reconnaître qu'ils font des erreurs, puisqu'ils cherchent le bien. Vous voyez ?
Merci d'abord pour votre bonne humeur. Ça, c'est vrai que ça encourage à la joie, beaucoup plus qu'à la colère.
Oui,
ça, c'est déjà une chose. La colère, comme d'autres mots, ce sont des mots et des racines.
Oui.
Ça veut dire qu'on ne peut pas inventer le mot. Le mot, il est là, il est verbe, il est vivant. Il faut juste aller dans sa racine profonde. Sans avoir d'idée, ni de jugement, ni même de philosophie, juste apprendre à lire, ce qu'on essaye de faire, comme Montaigne, voilà 30 ans qu'on est à l'essai. Le mot colère en araméen, qui est ma langue maternelle, a plusieurs mots. Il a un mot qui est kahas. Kahas. Kahas veut dire, on a la lettre kaf. La lettre kaf veut dire la main ouverte. Lorsqu'on est en colère, la main se ferme. Ce n'est donc plus une main, c'est un poing. Donc, ça ne peut pas être salutaire. C'est juste, on essaye de comprendre un mot. Ma question vient tout de suite derrière, mais il faut un tout petit préambule, tout petit, je vous assure, et qui, je pense, va nous enrichir grâce à ce que vous nous avez apporté. La deuxième lettre de Karas, c'est le Aïn, que vous connaissez, qui est l'œil. C'est-à-dire que l'œil vous regarde complètement autrement parce qu'il est imbibé de sang lorsque vous êtes en colère. Le mot colère, en latin archaïque, qui est plus proche de vous, se dit choléra. Choléra. Donc, c'est du latin archaïque. Vous pouvez aller le chercher, c'est très facile, c'est accessible. Vous voyez ce que je dis ?
La bile aussi qui monte.
Choléra, et vous retrouvez la racine, c'est RL. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous en voyez de toutes les couleurs. Vous voyez ? La colère vous amène à être dans une lumière qui est plutôt l'obscurité. Et cette lumière-là. Et ma question est, parce qu'il y a d'autres mots pour la colère qui est en grec même, timos.
Timos, oui.
Timos, qui est donc cette. On le retrouve en hébreu avec Rema. Rema, c'est.
C'est la chaleur.
C'est la chaleur. Et la chaleur, ce qui va monter, et la colère, c'est le même mot que la bile. Tout simplement la bile. La bile, on ne peut pas dire non plus qu'elle soit salutaire. Vous voyez ? Non, mais elle existe. Il va falloir faire avec. Ma question est, est-ce que il n'est pas préférable d'essayer d'être plutôt de bonne ou de mauvaise foi ? Vous voyez ? Puisque le mot foi est beaucoup plus intéressant que la colère, puisqu'on ne peut réguler la colère que par la foi. Uniquement la foi. Et la foi en Dieu. Uniquement la foi en Dieu. Sinon, on reste dans le cardia, c'est-à-dire le cœur. Et le cœur, tout ce qui sort du cœur, on le sait. Même les meilleures pensées sont encore les plus mauvaises. Vous savez, il y a ce vieux proverbe anglais qui dit qu'avec tous les amis qu'on a, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc, ma question, monsieur, c'est, est-ce que ce n'est pas par la foi que l'on peut réguler la colère, voire la supprimer?
Ah. Alors, il faudrait d'abord parler un peu de ce que c'est que la foi. Hein, c'est Aïmenuta.
Oui,
Emouna. Emouna en hébreu, Aïmenuta en araméen.
Tout à fait.
C'est la même racine que Emet, qui veut dire la vérité. Amen, c'est vrai. Donc, la foi, c'est la capacité d'entrer dans le vrai. Alors, j'ai donné la définition classique dans l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, qui dit que la foi, c'est l'adhésion, l'assentiment de l'intelligence à la vérité révélée. C'est la définition catholique. Et il me semble que ça correspond bien avec le concept hébraïque même d'Emouna. Il y a même le Gush Emouna. Le bloc de la foi. Et, alors c'est un peu des costauds là. Bon. Il faut que... Pourquoi la foi a un rapport avec la justice, d'abord, ensuite avec la colère? Puisque si l'intelligence consent à la vérité révélée, d'abord c'est un travail de l'intelligence. Donc il faut que la raison soit éveillée pour que l'intelligence elle-même travaille. Elle ne travaille pas sur n'importe quoi, elle travaille sur quelque chose qui lui est révélé par Dieu. Et donc la foi a à voir avec l'adhésion à la véracité divine à travers les médiations de la révélation. Donc l'Écriture sainte, entre autres, mais ce n'est pas uniquement ça. Ah. Et c'est un acte de volonté, puisque cette adhésion, même d'une chose qui est vue par l'intelligence, doit être voulue, consenti, et le consentement à une chose qui vient d'ailleurs, ça s'appelle une obéissance. Voilà. Comme il est requis, Shema Israël, Yodevave Eloenu, Yodevare Echa. Eh bien, on traduit écoute, mais on pourrait traduire obéis. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une écoute qui consent à la vérité parce qu'elle la voit. Donc, c'est un acte de liberté en même temps. Donc, un acte de liberté, un acte d'obéissance, un acte d'illumination d'intelligence. Et finalement, le tout forme l'amour divin. Donc, dans la foi, c'est la racine, c'est, comme on dit en théologie, une vertu théologale. C'est-à-dire, c'est une force qui nous est donnée de Dieu et qu'on ne reconnaît que quand on l'a reçue. Avant, une force qui vient de Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on l'a reçue et quand on en est rempli, on sait que ça ne vient pas de nous. Alors, effectivement, le consentement à la vérité révélée dépasse et nous fait accéder à une justice qui ne procède pas de nos raisons et de notre état déchu. Donc ça nous sauve, la foi sauve réellement de l'état déchu où nous sommes, où nous avons des appréciations injustes, la plupart du temps, du comportement d'autrui, d'une autre, de Dieu, etc. Donc on est en colère permanente contre tout. Et donc effectivement, quand on est dans la foi réelle, quand notre intelligence consent à la vérité révélée, avec amour, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Le monde qui nous est donné, et nous-mêmes dedans, nous paraît bon. Vraiment bon. Malgré toutes les difficultés, toutes les horreurs que nous voyons. Et ça n'empêche pas que le monde soit bon. C'est nous qui produisons le mal, justement à cause de notre injustice. Alors, ça va nous faire sortir d'une colère vis-à-vis de Dieu déjà. Grand progrès. Quand on est dans la foi, on ne peut plus être en colère vis-à-vis de Dieu. C'est définitif, même. C'est tellement absurde. C'est tellement contraire à tout. D'accuser Dieu de tout. Enfin, ça devient impensable. On a même du mal à l'énoncer. Et donc, vous avez raison, la foi en tant qu'acte total de l'homme, eh bien, il faut une plénitude humaine pour être dans la foi. Et c'est une vertu, c'est une force qui nous vient de Dieu. On la reçoit et on ne peut dire que merci. Et on est dans une action de grâce vis-à-vis de tout. Et même des souffrances qu'il nous faut traverser en cette vie. Parce que du coup, nous acceptons la miséricorde divine qui ne châtie pas immédiatement toutes nos fautes, les nôtres et celles des autres. Et donc, nous acceptons, mais qui n'est pas une acceptation de lâcheté, c'est une acceptation d'amour, de compassion peut-être. Le fait que l'humanité aille si mal, nous l'acceptons aussi. Et nous sommes en paix avec cela. Ça ne nous fait pas, ça ne nous empêche pas de chercher la justice, autant qu'il est en nous, mais avec modération. Parce que les gens qui cherchent la justice selon leur propre colère, en général, produisent des fanatiques. Et tous les dictateurs veulent mettre une justice sociale à leur façon. Et alors ça produit les goulags et le reste. C'est des gens qui voulaient la justice. Mais selon leur colère. Alors la colère du prolétariat ne fait pas la justice du monde. Ça fait les goulags, pour donner un exemple récent. Et donc vous avez raison, certainement... Ce que je proposais comme remède, c'est-à-dire, mais c'est des remèdes seconds qui découlent de la foi, alors à ce moment-là, on se met à l'étude et à l'humilité. Et certainement une compassion universelle autant qu'il peut nous être donné. Parce que ce n'est pas nous la source de la compassion. Monsieur, je ne sais pas
merci.
Si j'ai répondu.
Non, monsieur, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes. Et pour ce soir, pour moi, merci.
Oui.
Vous avez parlé de la nécessité de s'instruire. On n'a pas fini de s'instruire. Donc...
J'entends pas, excusez-moi, j'entends pas bien. Mais si vous êtes de... Voilà.
Vous avez parlé de la nécessité de s'instruire tout au long de sa vie.
Oui.
J'ai plusieurs questions dans ma question. Vous avez parlé d'intelligence. L'intelligence du cœur. Le Christ dit aussi qu'il y a Il y a plein de choses qui sont, les choses sont révélées uniquement aux petits, et les plus puissants n'auront pas accès à ces vérités. Donc, voilà. Moi, je voulais voir un petit peu comment tout ça est lié, l'ignorance, l'intelligence. Est-ce que à la source de tout péché, il y a l'ignorance aussi? Et l'ignorance agit-il? Quelle intelligence aussi? Parce que là, on parle d'une instruction, clairement, de presque d'affliction, je dirais. Mais en même temps, il y a des gens très, très humbles qui sont parfaits, qui sont, oui, qui sont peut-être.
Voilà.
Alors, on a parlé de la foi, donc la notion de la grâce.
Oui.
La grâce vient combler, peut-être, de nombreuses instructions, des définitions. Alors, voilà.
Bon.
Il y a plusieurs questions.
Oui, 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 mais j'entends bien. Enfin, du moins, je crois entendre. Et.
Il y a une notion, par exemple, de l'humilité, de parler de ces gens qui sont humbles.
Oui. Alors, oui, bien sûr, mais le péché principal, c'est l'orgueil, on est d'accord. On est d'accord, vous avez eu une conférence là-dessus, je ne vais pas la redoubler. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Bon, on peut le définir de façon négative, c'est ce qui s'oppose à l'orgueil. Bon, et on n'a rien appris. Strictement rien. Hein? Comme quand on dit, bah, nous avons des passions, nous sommes passibles, comme dit la tradition, mais Dieu est impassible. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Rien. Parce que la pure négation binaire, logique, à l'Aristote, n'enseigne rien sur ce qu'on nie. On sait que c'est pas ça, c'est tout, mais on ne sait rien. Supposons que nous ayons une idée de la finitude.